C'est un énorme plaisir d'être ici parmi vous et un grand merci aux organisateurs pour cette invitation. Lorsque j'ai reçu ce sujet, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des sciences cognitives. Et ce que je vais vous présenter, c'est une partie d'une énorme question. Vous allez vous poser la question, pourquoi cette image? En fait, ça, c'est une des premières traversées alpines qui était utilisée du temps des Romains. Et là, ah, mais ça ne marche pas là. Vous voyez à cet endroit-là les figurines qui représentent les hommes qui traversaient ce monde vraiment inaccessible autrement. Bien sûr, les bouquetins peuvent sauter dans ce terrain n'importe où, c'est surprenant. Néanmoins, ce qui fait des hommes de nous, c'est l'ingéniosité de pouvoir construire un tel passage, l'utiliser, faire le commerce à travers des deux côtés des Alpes. Et c'est un peu cette question que je vais aborder aujourd'hui. L'identité humaine, c'est-à-dire ce qui fait de nous des hommes au sens de Homo sapiens, donc l'essence de notre humanité. Ce que je ne veux pas aborder, c'est la question de mon identité personnelle. Qu'est-ce qui me différencie des autres hommes? Et je ne veux pas non plus aborder un troisième volet, qui est celui de l'identité humaine en relation avec la foi. Donc je n'ai que trois quarts d'heure, je n'arriverai pas à le faire. Quand on se positionne dans les neurosciences cognitives, on a toute une liste qui n'est pas exhaustive ici, des fonctions qui vraiment sont à l'origine de notre humanité. Bien sûr, c'est le langage, communication verbale et non-verbale, le calcul, la musique, ensuite tout le domaine de la pensée, la conscience, conception de soi, l'intentionnalité, imagination, créativité, prise de décision, développement des stratégies, ensuite les interactions sociales, la théorie de l'esprit, la gestion des émotions, le comportement, la personnalité, la spiritualité, et ensuite tout un autre domaine qui est celui du savoir, des connaissances, de l'expertise, de la représentation de l'espace y compris, et la maîtrise du monde matériel. Et le tout est multiplié par notre capacité d'apprendre, de créer, d'avancer les connaissances. Alors, c'est pas exhaustif cette liste, et n'ayez pas peur, je ne vais pas traiter chacun des aspects. Je vais me concentrer sur trois choses. Ils sont en rouge, donc le langage oral, la théorie de l'esprit, les connaissants et les connaissances. Et mon message finalement sera que ces capacités dépendent des structures cérébrales et c'est ces capacités qui nous distinguent des espèces animales. Donc même des primates non humains, et je vais essayer de citer des exemples, n'ont pas bien sûr ces capacités. Et je ne vais aborder que très brièvement cet aspect-là, ces capacités sont apparues progressivement avec l'Homo sapiens. Alors, affaire de neurones. Ça, c'est des images d'une de nos publications que nous avons publiées il y a plus de 10 ans. Nous avons utilisé des traceurs que nous avons mis dans le cerveau post-mortem des personnes qui ont donner le cerveau pour ce type d'étude, et ces traceurs voyagent le long des axones et colorent des neurones. Là, il y en a un, ça c'est l'agrandissement avec son axone, tous les embranchements, le corps neuronal ici, les points, c'est des points avec d'autres neurones, des contacts, de nouveau l'axone, et là vous voyez l'arbre dendritique, cet arbre qui reçoit l'information des autres neurones avec les petites épines qui sont les sites privilégiés pour certains de ces contacts. Donc, on peut étudier le cerveau humain sous cet aspect-là, et c'est très intéressant, mais c'est pas nécessairement cela qui fait la différence avec, par exemple, les primates. Il y a beaucoup de similarités, par exemple, les transmetteurs sont très similaires à travers les espèces, les voies de signalisation biochimique sont très similaires entre les espèces, ce qui fait de nous vraiment probablement ce que nous sommes de point de vue humain, c'est plutôt l'organisation générale du cerveau. Donc, nous allons le voir plutôt dans l'ensemble et nous allons voir des exemples des réseaux neuronaux particuliers. Donc ça, c'est une photo d'un cerveau reconstruit à partir des images prises en imagerie d'un sujet normal. C'est un de mes collègues. On l'a reconstruit, aplati. Donc, il était sujet dans une expérience et il s'est révélé. Je voulais dire, c'est un cerveau de mon collègue, pas lui. C'était un lapsus. Alors, il y a on décrit certaines parties et des termes que je vais utiliser. La partie qui est en avant, on l'appelle frontale, c'est derrière le front. Ensuite, pariétale, c'est contre la paroi externe du cerveau. Et on a occipitale, la partie postérieure. On a aussi une partie de laquelle nous allons parler, elle est en bas, latérale, s'appelle temporale. Donc, il y a des parties du cerveau qui s'occupent des choses entre guillemets simples, comme la vision en jaune, comme l'audition en vert, ou la sensibilité tactile en bleu, ou la motricité en rouge. Et tout ce qu'il y a, tout ce qui n'est pas coloré ici, c'est en fait des régions qui participent à l'élaboration des comportements et des fonctions extrêmement complexes. Alors, regardons l'aspect du langage, et je vais me limiter au langage oral. Donc, quand on étudie le langage, on se heurte contre... Il y a des appréciations différentes de son importance. Par exemple, Chomsky pensait que le langage était le fondement essentiel de la pensée symbolique chez l'homme. Tandis qu'il y a d'autres auteurs qui finalement disent « Le langage, c'est un moyen de communication, certes efficace, mais c'est un parmi plusieurs. » Donc, est-ce que c'est vraiment la chose qui nous fait l'homme uniquement ou est-ce que c'est un de plusieurs outils qui nous rendent humains? Alors, au niveau cérébral, lorsqu'on étudie l'organisation du cerveau qui sous-tend le langage, on se rend compte qu'il y a des régions impliquées dans le langage. Dans notre jargon, on les appelle les aires du langage. Ces aires sont connectées, par des axones qui voyagent comme des autoroutes dans la partie qui s'appelle matière blanche. Et les deux hémisphères ne sont pas égaux face au langage. Nous allons le voir tout à l'heure. Maintenant, je vais le mentionner après, il y a des légères similarités avec ce qu'on appelle langage chez l'homme, chez d'autres espèces. Et une chose sur laquelle je ne veux pas revenir, mais quand on parle d'autres types de communication ou des précurseurs du langage, on devrait aussi considérer les gestes, l'utilisation des outils et des interactions sociales au large. Alors, vraiment, l'histoire de l'organisation cérébrale du langage commence officiellement ici à Paris avec Paul Broca. Donc, en 1961, ce médecin qui était neurologue, psychiatre, anthropologue, enfin, il faisait un peu toutes les sciences comme ça se faisait à l'époque, il suivait un patient qui a perdu l'usage du langage. Le patient meurt, Broca prélève le cerveau, ce qui était habituel à l'époque, et le regarde. Donc, je suis désolée, avec ce lien, toutes mes animations ont disparu. Donc là, ça cache l'image où on voit une petite partie du cerveau, la lésion du cerveau du Broca, du patient de Broca. Et Broca a dit, ce patient a perdu le langage, il ne pouvait plus parler, et cette lésion est dans la partie antérieure du cerveau. Et elle est du côté gauche. Donc il est à l'origine de ce qu'on appelle la dominance hémisphérique gauche. Quelques années plus tard, un psychiatre et neurologue allemand, Karl Wernicke, a publié sa thèse en médecine où il avait toute une série de patients où certes certains ne parlaient pas, avaient une lésion un peu similaire comme Broca, et d'autres parlaient mais ne comprenaient pas, et ils avaient des lésions un peu plus en arrière. Et de cela, on a développé cette notion de l'hémisphère gauche pour le langage, avec au moins deux régions spécialisées. Alors, ce cerveau était, je crois qu'il est toujours encore dans le musée Dupuytren, ici à Paris, et il a été utilisé pour des études d'imagerie, dont une ici, où on voit l'hémisphère gauche avec la lésion, mais on voit qu'elle était beaucoup plus profonde et que cette partie du cerveau était sévèrement endommagée. Donc, ce n'était pas juste un petit trou qui détruit la capacité de parler. Au cours des derniers 20 voire 30 ans, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez des sujets normaux par l'imagerie fonctionnelle. Donc on peut disséquer le langage en dans des petites parties, des sous-fonctions qu'on peut étudier. Et le modèle qu'on a aujourd'hui est certes que l'hémisphère gauche est important pour le langage, qu'on a deux régions clés, donc celle-ci en avant qui correspond plus ou moins à la région identifiée par Broca, mais aussi tout ce lobe temporal, donc latéral en bas, qui joue un rôle. Et ces régions sont connectées par deux grandes voies. Une qui passe par en bas, et on l'appelle ventrale, c'est de nouveau un jargon anatomique, et elle soutient surtout le traitement du sens des mots. Aussi, par ailleurs, le sens, par exemple, des sons, etc. Et il y a une deuxième voie qui passe vers le haut et ensuite en avant. On l'appelle dorsale, donc comme supérieure. Et elle soutient des choses assez intéressantes comme le processing phonologique, donc les différences subtiles qui font de la peine aux gens comme moi quand nous avons appris un peu le français, comme 20 pains, etc., ou 20 vents, ou d'autres différences de syllabes phonologiques. Et surtout, elle est impliquée dans la syntaxe, donc quelque chose qui est très important pour le langage. Alors, on peut visualiser ces connexions dans le cerveau humain. Ça vient d'une de nos études très antérieures où on voulait tout simplement voir l'asymétrie de ces connexions. C'est une méthodologie où on regarde la façon dont diffuse l'eau dans la matière blanche et on reconstruit par des logiciels très complexes les trajectoires probables des axones. Et c'est ce que, avec mes collègues, nous avons fait. Et nous avons fait en jaune les connexions entre l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, ces deux régions cérébrales, dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droite, dans leur équivalent, et les connexions entre les hémisphères. Alors, ça a été refait par d'autres groupes. Et là, il y a un résultat assez intéressant. Les groupes qui ont fait une méta-analyse d'un grand nombre d'études et ils ont comparé les connexions entre ces deux régions qui vont, donc la voie dorsale par en haut et la voie ventrale, donc qui passe par en bas. Et ce qui est intéressant, cette voie dorsale qui soutient le traitement phonologique et syntactique, elle est clairement asymétrique. Plus forte à gauche qu'à droite, et tandis que la voie ventrale est quasiment symétrique. Maintenant, ce type d'étude est intéressant parce qu'on peut le faire chez d'autres espèces. Et c'était fait notamment chez le chimpanzé, où il y a les mêmes types de voies qu'on peut trouver. Et là, on a une voie dorsale, mais une voie ventrale qui est beaucoup plus forte, donc une voie sémantique, et il y a à peine une asymétrie. Il y a une discrète asymétrie c'est décrit au niveau statistique du faisceau dorsal, mais c'est petit par rapport à la grande asymétrie qui est trouvée chez l'homme. Maintenant, donc, nous avons chez les primates quand même certaines similarités dans l'organisation autour de l'audition qui vont vers l'organisation du langage. Hein. Les deux voies, nous avons une légère asymétrie. Et en effet, les primates ont des cris qu'ils utilisent dans la communication. Ça peut vouloir dire un prédateur, ça peut vouloir dire quelque chose de bon à manger, etc. Et ils dialoguent là-dessus. Ça a été étudié dans plusieurs espèces. Ici, je cite les études chez des Ouistiti, les marmosettelins, parce que c'est une espèce qui est plus facile à étudier. Et voici les audiogrammes, enfin de ces différentes appels que les singes utilisent, qui sont utilisés ensuite pour enregistrer l'activité des neurones, voir comment les groupes de neurones répondent, etc. Finalement, ils ont aussi dans la partie antérieure du cerveau, à peu près dans la région grosso modo équivalente de l'aire de Broca, des neurones qui répondent à la fois à entendre ces sons spécifiques d'une façon sélective, mais aussi qui s'activent lorsque le singe fait ce même cri. Donc, c'est des neurones qui aide la compréhension et production de certains de ces cris. Ça a été, on présume que c'est un système qui est une ébauche vers quelque chose qui ressemble à une partie, une petite partie du langage. Donc, en effet, le langage est soutenu par un réseau neuronal complexe et on a une dominance hémisphérique gauche chez l'homme. Il y a ces deux voies. Ce réseau est essentiel pour le langage. Donc, la preuve pour cela, c'est ces situations où on a un dommage lié à une région ou l'autre ou à l'ensemble de l'hémisphère gauche. Et on a une perte de cette capacité. Donc les patients aphasiques, tels qu'on les appelle aujourd'hui, qui peuvent ressembler beaucoup de ce qu'avait le patient de Broca. Ensuite, quand on passe, justement, on le délimite avec les primates, on a quelque chose de tout à fait différent. Juste les vocalisations qui ont certes un sens, qui servent à une communication, mais qui sont loin d'avoir la même complexité. Et cette complexité, c'est le raffinement phonologique, c'est aussi la syntaxe, la grammaire que nous avons, nous, et que eux, ils n'ont pas. Parfois, on parle d'une certaine grammaire, mais c'est vraiment pas du tout comparable. Je ne veux pas parler des oiseaux, juste pour dire, oui, les oiseaux peuvent avoir un système similaire de communication par des cris spécifiques qui s'apprend lors du développement, mais c'est de nouveau quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui dépend aussi de notre système cérébral. Le cerveau est configuré différemment. Donc, ça c'est le langage. Un autre aspect qui est important et qu'on discute beaucoup et qui a été énormément étudié pendant plus de deux décennies, c'est de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et là, j'aimerais aborder ça dans un contexte un peu plus large, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui facilement le cerveau social. En fait, nous avons dans le cerveau des circuits qui sont impliqués dans la gestion des tâches complexes, mais aussi dans notre comportement et finalement qui sont codéterminants pour ce que ou essentiels pour ce qui est de notre personnalité. Tout ce que les autres reconnaissent comme notre personnalité dépend du fonctionnement de ces circuits. Illustrer la pertinence pour la définition, je vais utiliser un cas historique Et je pense que beaucoup d'entre vous ont parlé, entendu parler de Phineas Gage. Donc, on est même avant Broca, on se place du côté de l'Amérique. Phineas Gage était un jeune homme de 25 ans, contremaître dans une voie de construction de chemin de fer. Et il était très apprécié par ses supérieurs, par ses ouvriers, par ses collègues, vraiment compétent de point de vue technique et un homme, de par sa personnalité, très apprécié. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour préparer une explosion, ils ont fait un trou dans le rocher, ils ont rempli avec la poudre explosive un peu de sable dessus, et Phineas Gage prend cette barre-là, et par le bout plat, il commence à tasser le tout pour préparer l'explosion. Un ouvrier lui parle, il tourne la tête, et à ce moment-là, la barre tape le rocher, l'étincelle, l'explosion, et la barre traverse massif facial et ressort. Donc, ça, c'est la reconstruction sur l'image. Il est traité par le médecin local, Harlow, qui le soigne. Il a une infection, il perd la vue de l'œil gauche. Mais Harlow, dans un article du journal médical local, dit, quelques semaines après, il dit « Mais Phineas Gage a pu survivre et 3 semaines après, il marche sur la place du village. » Le reste, on apprend d'un ouvrage que Harlow a publié 20 ans après, parce qu'il a contacté la famille de Phineas Gage et il a reçu toute l'information. Phineas Gage n'a pas pu tenir son travail. On a décrit un homme qui, de quelqu'un pondéré, de quelqu'un raisonnable, il est devenu irritable, il a créé des problèmes partout. Et ses amis disaient, Phineas Gage n'est plus lui-même. Après, il a dû changer de travail, il a émigré en Amérique latine, il a travaillé avec des diligences, donc sa motricité était parfaite, mais il a changé de personnalité. Il est décédé, il a rejoint sa famille, il est décédé de ce qui sont probablement les séquelles d'une épilepsie, donc post-traumatique, qui est une complication fréquente et que, bien sûr, on ne pouvait pas traiter à l'époque. Phineas Gage a pu obtenir le crâne de la famille, donc il a utilisé cela pour l'illustration, il a reconstruit la trajectoire, et c'était utilisé par des collègues américains qui ont reconstruit un peu le dommage qu'a subi le cerveau de Phineas Gage par cette barre. Bien sûr, il ne pouvait pas tenir compte de l'infection, etc., mais c'était globalement la partie antérieure du cerveau qui a été détruite, tandis que les régions qui concernent la motricité, la sensibilité, l'audition, la vision, et même les aires du langage, n'étaient pas touchées. Alors, Phineas Gage, malheureusement, aussi, on rencontre ce type de situation aujourd'hui. Et ça, c'est en partie lié, enfin, ce n'est plus tellement des accidents industriels ou des accidents de guerre, c'est aujourd'hui surtout des accidents de circulation avec des traumatismes crânio-cérébraux qui endommagent très fréquemment cette partie antérieure par la cinétique du choc et la partie antérieure de lobes temporaux. Et jusqu'à récemment, ça c'est le manuel des maladies psychiatriques, c'est la 3e version, qui encore contenait une description de ce qu'on appelait à l'époque le syndrome frontal, c'est-à-dire un changement qui touche pas seulement la cognition, l'attention, mémoire, mais aussi la personnalité, aussi le comportement du patient, suite à une lésion très spécifique cérébrale qui n'est pas une maladie psychiatrique. Donc, on peut avoir ce changement majeur. Ce n'est pas tous les patients qui ont tous ces déficits comme Phineas Gage l'avait d'une façon massive. Vraiment, il a subi un énorme dommage. Mais on peut avoir des parties plus spécifiques qui sont touchées et une des sous-fonctions, si on peut dire, ce qu'on appelle, c'est la théorie de l'esprit. Ça, c'était développé comme un concept des sciences cognitives. Et finalement, c'est ce qui nous permet de reconnaître notre propre état mental, de dire « je suis fâchée, je suis contente, je réfléchis logiquement sur une chose », mais aussi l'état mental de nos proches, enfin de notre vis-à-vis, de notre homme, de notre femme, d'un groupe de personnes. Ceci nous permet à attribuer des intentions, de deviner ce qui sont les intentions des autres, de se faire une idée quel est l'état de leur connaissance, qu'est-ce qu'ils pourraient désirer, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous utilisons dans notre quotidien tout le temps et qui est extrêmement important dans nos interactions. Finalement, c'est cette sorte d'approche qui nous permet d'avoir une plus grande représentation du monde, de notre environnement, de notre société, et d'envisager nos propres actions, nos attitudes, en fonction de cela. Et aussi, par exemple, agir à l'intérieur d'un groupe à cause de ça. Donc, c'est quelque chose d'ultra important. Maintenant, c'est compliqué, hein. Et on peut se poser la question, mais avec l'imagerie cérébrale, on regarde qu'est-ce qui est impliqué dans quoi, mais comment est-ce qu'on peut l'étudier? Donc, juste pour vous donner un aperçu, voici quelques paradigmes expérimentaux qui sont utilisés pour cela. Donc, généralement, on utilise pour cela des histoires qu'on présente aux patients, enfin aux sujets, c'est souvent des sujets normaux, avec des vignettes, des petites histoires, ou des photos où ils doivent commenter ou deviner des choses. Et ça peut aller à peu près comme cela, à partir d'une histoire qui raconte les interactions entre deux ou trois personnes, apprécier l'état des connaissances d'un des protagonistes. Ou, si vous voulez, à la fin ou pendant la pause, je peux vous donner des exemples concrets. Ou d'avoir une photo d'un visage, d'avoir une brève description des actions de quelqu'un et on demande d'apprécier les traits de personnalité. Donc, ou faire des jeux stratégiques où vous devez prendre votre décision sur la base de l'appréciation de ce que vous pensez que l'autre va faire. Des interactions sociales simulées par des petits cartoons des formes géométriques. Il existe cette sorte de tâche. Ou on peut avoir des photos, juste des yeux d'une personne, et on demande quel est l'état mental à ce moment-là de la personne. Si vous allez au cinéma, je veux dire, c'est ce qui est souvent utilisé pour vous presque dire ce qui va suivre parfois. Et puis après, il y a toute la réflexion sur les suites logiques ou rationnelles des actions d'un personnage dans une vignette. Alors, aujourd'hui, on a des centaines d'études individuelles sur ces différents aspects. Donc, je ne vais pas vous présenter cela. Il y a de plus en plus une attitude où on prend toutes ces données et on fait des méta-analyses pour identifier les régions clés. Et ça, c'est une excellente méta-analyse effectuée par ses collègues et publiée il y a 3 ans, qui vraiment identifie pour chacun des 6 situations que j'ai mentionnées avant les régions qui sont impliquées. Donc, ce qui est, ça, c'est le code couleur pour l'importance de la région dans la fonction donnée. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent cette région postérieure, ensuite à l'intérieur, entre les hémisphères, une région antérieure, une postérieure qu'on retrouve, et quand on va du côté latéral, on a aussi, ça peut avancer le long du lobe temporal, dans le cortex frontal, de nouveau frontal, etc. Donc, on a un réseau qui se ressemble pour les différents aspects, bien qu'il n'est pas exactement le même. Et là, c'est les mêmes, ça c'est la même revue, plus une réanalyse encore de ces données par un autre groupe, où ils identifient ces régions clés, mais ils démontrent qu'en fait, ce n'est pas chacune de ces régions qui est également impliquée dans tous ces 6 différents aspects qui ont été inclus dans l'étude. Donc, la théorie de l'esprit est certes importante, c'est un ensemble de sous-fonctions qui dépend des réseaux neuronaux similaires, mais légèrement différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la spiritualité ou l'expression ou le vécu de notre foi, lorsqu'on regarde à quoi ça correspond dans notre cerveau, on retombe en partie sur des réseaux très similaires. Alors, j'aimerais me placer pas la spiritualité orientale ou autre chose, je ne parle pas là des méditations, mais des différents aspects de la foi dans le contexte chrétien. Et elle est composée de beaucoup, finalement, de choses différentes. C'est bien sûr croire un principe par une adhésion profonde, de tout notre cœur croire, et nous avons la certitude de cela. La connaissance des textes bibliques, l'étude des textes bibliques est très importante, ça fait partie de notre foi. La connaissance des doctrines, des préceptes, bon, j'ai parlé déjà de la conviction, la décision, donc la volonté de suivre ces préceptes, c'est aussi, ça fait aussi partie de notre foi. Ensuite, la vie de prière, de louange, l'expression communautaire de la foi, donc vivre avec d'autres personnes dans une église, dans un groupe, ça fait aussi partie de la foi. Ensuite, il y a ce sentiment qui est peut-être proche de certaines mouvances méditatives, se sentir porté dans la foi. Vraiment, ensuite, il y a des expériences spirituelles particulières. Et une chose qui fortifie certainement notre foi, c'est les souvenirs de l'expérience vécue dans le cadre de la foi. Tout ça, c'est notre foi. Ce n'est pas qu'une chose, ce n'est pas qu'une expérience mystique, etc. Tout ça constitue notre foi. De nouveau, vous avez probablement vu toute une série d'articles ou de commentaires sur la neurothéologie ou cette étude des fondements spirituels en neurosciences. Et de nouveau, il y a toute une série d'études, beaucoup sur la méditation, ou sur des aspects plus mystiques, mais certaines des études ont abordé ça d'une façon très cognitive et ont déterminé dans une population qui était à ce moment-là judéo-chrétienne, donc aux États-Unis, c'était soit des juifs, soit des chrétiens, qu'est-ce qui ressort comme élément important dans cette population, comme faisant appel à la foi, donc c'était la foi dans une réalité transcendante, la doctrine, les expériences vécues dans le cadre religieux et cette conviction et implication personnelle. Ils ont étudié les corrélats neuronaux, donc l'imagerie cérébrale de ces différents aspects. Et tout ce qu'il y a par rapport à la réalité transcendante, comment est-ce que j'imagine de Dieu, ou quand je pense à Dieu, quels sont finalement les circuits neuronaux qui sont actifs à ce moment-là? C'est intéressant que cette partie de la foi, les régions qui sont impliquées, c'est les mêmes régions à peu près, qui sont aussi impliqués dans certains aspects de la théorie de l'esprit. Donc, dans notre cerveau, finalement, d'avoir une représentation de l'intention des autres et d'avoir un concept de ce qui est Dieu, on utilise les mêmes ressources. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis que à un certain niveau, on utilise la même ressource. C'est intéressant que pour des aspects doctrinaux, et là, ils ont étudié des aspects purement religieux, spirituel, on utilise le même système qui gère toute notre connaissance sémantique. Ensuite, pour le vécu personnel, on s'approche de ce qu'on appelle la mémoire épisodique, ce qui sont notre vécu personnel, par exemple dans le cadre familial ou autre. Et lorsqu'il s'agit de ressentir cette conviction profonde de la foi, coactive aussi des circuits qui, par ailleurs, sont impliqués dans certains aspects de l'émotion. Pas tous, mais certains aspects de l'émotion. Et ça, c'est l'illustration de cet aspect-là. Je vous ai montré cette région entre les deux hémisphères, en avant du cerveau, qui est impliquée dans certains aspects de la théorie de l'esprit. Mais c'est la même région, ici en jaune, qui, dans l'étude que je viens de citer, est impliquée dans lorsque le sujet pense à la relation que Dieu entretient avec les hommes. Donc, il y avait des différentes tâches qui ont été utilisées. Donc, on a un système neuronal extrêmement complexe qui est impliqué dans tout ce que nous résumons sous la théorie de l'esprit. Mais ce système très complexe soutient aussi certains aspects de notre foi. Au moins, on y dépend à ce niveau-là. Alors, j'ai dit comme cela, la théorie de l'esprit, ça nous différencie des primates. Alors, il y a 40 ans, la grande question a été posée par Premack et Woodruff, c'est un papier clé dans la région. Est-ce que les chimpanzés, qui étaient censés être les plus proches parents, ont aussi une théorie de l'esprit? Et depuis, il y avait beaucoup de publications, il y a beaucoup de problèmes méthodologiques, comment l'étudier, parce que bien sûr, on ne peut pas faire exactement les mêmes choses, et je ne vais pas entrer dans les détails. Un peu le résumé, le consensus actuel, c'est que les primates peuvent se faire une idée ce que l'autre singe sait ou ce qu'il ne sait pas. Par exemple, par rapport à la nourriture qui a été cachée quelque part, des choses de ce type-là. Par contre, il ne peut pas avoir une idée sur les fausses croyances. Ça veut dire il ne peut pas décerner des mensonges, il ne peut pas prétendre autrement. Si vous voulez, il peut savoir ce que l'autre sait, mais il ne peut pas non plus savoir ce que l'autre sait que lui, il sait. Parce que nous pouvons bien sûr savoir ce que l'autre personne pense, sait ou voudra faire, et on peut se faire aussi une idée ce que l'autre, quelle est la représentation de l'autre personne, de nous-mêmes ou d'une tierce personne. Mais c'est ce deuxième niveau qui n'est absolument pas présent chez les primates. Donc ils ont, on dit souvent, une petite théorie de l'esprit, mais qui est loin différente de celle de l'homme. Donc, c'est ce que j'ai résumé tout à l'heure. J'aimerais revenir sur un troisième aspect, qui est les représentations sémantiques. Ça veut dire les connaissances et l'expertise. Donc, dans notre cerveau, nous avons deux encodages de ces connaissances. Une est liée à un système sensoriel, souvent le système sensoriel de l'entrée, et une autre est ce qu'on appelle supramodal, c'est-à-dire réunit l'information des plusieurs sens. Alors, je vais vous donner des exemples. Oh, mais quelle horreur! Je sais pas, mais mon ordinateur n'aime pas causer avec ce projecteur. Alors, un des exemples, c'est la perte de la capacité de reconnaître des visages. un exemple neuropsychologique, d'ailleurs qui a été décrit très tard, c'était seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous présente la situation d'une patiente que j'ai examinée lorsqu'elle avait 50 ans pour une assurance pour sa rente. Et en fait, à 39 ans, elle a fait un accident de montagne avec un traumatisme, avec une lésion que je vais vous montrer. Sa vision était normale, sa motricité est normale, elle avait très peu de difficultés. Son problème était que depuis cet accident, elle ne reconnaissait plus les visages de ses proches, des personnes qu'elle connaissait bien. Nous l'avons testée en détail, elle avait aussi des difficultés dans d'autres domaines, par exemple les bâtiments qu'elle devrait connaître dans son village, dans les villes qu'elle connaissait, elle avait de la peine et elle n'arrivait pas à reconnaître l'écriture. Elle lisait parfaitement, mais elle n'identifiait pas l'écriture de sa sœur parmi d'autres écritures, même très différentes. Donc, elle avait un majeur problème de reconnaissance. Elle était fascinée de la montagne et nous l'avons testée. Vous savez, en Suisse, quand vous regardez une photo d'une montagne, la plupart des gens vous disent « Ah, c'est ça, ça, je l'ai fait, etc. » Elle était incapable de reconnaître des montagnes, de sa vallée, des sommets qu'elle a fait, et c'était vraiment, ça lui posait des problèmes, des visages, de ne pas reconnaître ses points de repère habituels. Tandis qu'elle pouvait appareiller des visages parfaitement bien, donc il n'y avait aucun problème donc ça c'était la lésion, une petite lésion qui était dans les deux hémisphères. Je suis désolée, il y a toute une partie qui a disparu là. Maintenant, cette petite lésion touche un endroit qui s'occupe de la vision et spécifiquement la reconnaissance des visages. Donc ça, c'est une analyse, de nouveau des méta-analyses, des études qui ont étudié la reconnaissance des visages ou reconnaissance des espèces d'oiseaux. Chez les oiseaux, donc dire ça c'est un aigle, ça c'est une mésange, etc. Des fleurs, des maisons, là il y avait une autre spécialité, ou des voitures. Et on a des champs d'activation très proches, et c'est exactement dans cette région que la patiente avait la lésion. Donc c'est un système expert qui nous permettent d'identifier des items différents dans une catégorie où nous sommes relativement performants, relativement experts. Et c'est pas étonnant que d'autres catégories ont été touchées, parce que c'est un peu cette région où on a des régions plus ou moins spécialisées selon catégorie. Maintenant, le deuxième système que nous avons, c'est un système supramodal. De nouveau, je parle d'une méta-analyse qui a été faite à partir d'un grand nombre d'études, 120, et ils ont comparé les études avec des différentes modalités, donc visuelles, tactiles, auditives, etc. Tout ce qui est en jaune, c'est souvent utilisé dans une modalité seulement, tandis que tout ce qui est en rouge, notamment ici, en avant, en haut, ou bien cette partie postérieure ou cette partie inférieure en avant. C'est des régions qui sont utilisées par plusieurs modalités, voire quand l'information doit combiner plusieurs modalités. Et ça, c'est le réseau sémantique supramodal. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut devenir expert ? Et je vais maintenant citer deux de nos études qui étaient faites par Rosanna De Meo, une de mes doctorantes il y a un certain temps. Elle s'intéressait à cette expertise dans le domaine auditif, parce que mon groupe a travaillé depuis plusieurs années sur l'audition. Et son étude était d'entraîner les personnes à devenir experts à reconnaître des espèces d'oiseaux par leur chant. Alors, elle avait une session d'entraînement où les gens devenaient experts à reconnaître certains nombres d'espèces chaque fois ils entendaient un chant, un autre chant de ce même oiseau, ils voyaient l'image, ils avaient le nom et ils avaient l'information avec une carte où ces oiseaux vivaient précisément. Dans l'expérience, c'était précédé par un enregistrement EEG des chants des oiseaux qui étaient ensuite entraînés, plus un groupe contrôle des espèces qui n'étaient pas entraînées. Et la même chose, les mêmes enregistrements EEG, donc électroencéphalographie, après. Elle avait 120 électrodes sur la tête, elle reconstruit les foyers et elle a fait une analyse statistique sur ce qu'on appelle les potentiels évoqués. En fait, ce qui est résumé ici sur une figurine du cerveau, c'est les changements en rouge par rapport à cette expertise. Ça, c'est comment a changé cette expertise qui a été entraînée brièvement, l'encodage de ces espèces-là. Et on voit que c'est dans cette région supramodale qu'il y a un changement. Il y a dans cette région supramodale, de nouveau, qu'on a un changement significatif, en partie ici, et ça c'est une autre chose, je ne vais pas entrer dans les détails, un peu mineur. Donc, on s'attendait, dans cette première étude, d'avoir un changement auditif. C'était un entraînement purement auditif, sur le champ. Mais l'expertise était accompagnée par un changement de l'encodage supramodal. Alors, sa deuxième étude portait sur un autre aspect de l'expertise auditive. En étant étudiant en médecine, le problème c'est d'apprendre l'auscultation cardiaque. Et les étudiants en médecine, quand ils arrivent en quatrième année, ils savent tout du cœur, enfin j'exagère, mais l'anatomie, physiologie, ils savent un peu ausculter, ils avaient des cours sur l'auscultation, ils ont vu la pathologie, ils ont vu les choses en radiologie, ils comprennent pourquoi, comment est-ce que des maladies affectent l'auscultation, etc. Mais ils ont des difficultés à faire le diagnostic par auscultation. Ils ne sont pas les seuls. Parce que à Johns Hopkins, aux États-Unis, il y a toute une unité pédagogique qui se penche sur l'apprentissage. Et nous avons collaboré avec Wade Thompson de cette unité pour notre étude sur ce qui fait finalement l'expertise en auscultation. Donc, et nous avions une petite hypothèse quand même en tête, dans le sens que nous avons pensé que le lien avec la signification pourrait jouer un rôle et que ce n'est pas tout simplement un entraînement auditif comme on prétendait jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant on style les étudiants à écouter des petites différences acoustiques pour devenir experts. Alors ce qu'ils ont entendu, donc l'auscultation cardiaque, le rythme cardiaque c'est à peu près 60 par minutes, donc un par seconde, et chaque fois c'est touc-touc-touc-touc-touc-touc-touc-touc. Et les deux touc-touc, c'est deux bruits cardiaques qui correspondent à des ouvertures et fermetures des valves. Nous avons choisi, avec notre collègue américain, avec Reid, des dédoublements de ce premier ou deuxième son. Ça, c'est des représentations normales. Un son, le deuxième, ça c'est un battement cardiaque, un deuxième. Et on a présenté 4 battements cardiaques dans une fois. Là, il y a une première particularité que le deuxième, vous voyez 2 pics, peut être dédoublé. Et ça, c'est complètement normal parce que avec la respiration, ça peut se passer comme cela. Ça, on entend assez facilement. Là, c'est des situations pathologiques où c'est chaque fois un dédoublement. Là, c'est le premier qui est dédoublé. Et Rosanna a comparé les potentiels évoqués au début du deuxième battement quand vraiment acoustiquement toute l'information à peu près était là pour faire la tâche. Et elle a comparé des potentiels évoqués lorsque la réponse était correcte qui a été donnée par l'étudiant et lorsque c'était incorrect. Ça, c'est une approche cognitive normale dans le sens que on présume que lorsque la réponse, la reconnaissance est juste, c'est que le bon réseau neuronal a été activé pour donner la bonne réponse. Et finalement, ce qu'elle a ressorti, ça c'est, je vous passe sur l'analyse, mais la région clé qui fait la différence entre la bonne et la mauvaise reconnaissance est ici, dans la partie supramodale, dans un système sémantique. Ça n'a rien à faire avec l'audition. Je vous épargne les expériences contrôle, parce que nous avons la sensibilité de détecter des petites différences auditives. Donc, même pour devenir expert à discriminer des sons extrêmement subtils, si nous pouvons nous appuyer sur une connaissance accumulée, donc de ce domaine, ça nous rend beaucoup plus efficaces. Ici, c'est pour l'auscultation cardiaque, mais c'est aussi un peu utile pour d'autres domaines médicaux, comme diagnostic radiologique, etc. Alors, maintenant, voilà, donc, pour devenir expert, bien sûr, c'est notre expérience, l'apprentissage, mais l'expertise de haut niveau s'appuie sur des connaissances que nous avons acquises avant et que nous avons acquises généralement en relation avec les autres, donc ou avec des sous les bancs de l'école, par des documents, par des transmissions même entre populations, etc. Donc là, et de nouveau, je suis vraiment désolée, je perds une des images importantes. On peut se demander comment ça a évolué. Aujourd'hui, bien sûr, nos connaissances, c'est une chose facile. Nous allons à l'école, nous allons à l'université, nous apprenons et nous pouvons appuyer notre expertise là-dessus et la pousser plus loin. Mais comment est-ce que ça a commencé? Ça, c'est des images de Lascaux. Et bien sûr, souvent, ils sont admirés pour leur valeur artistique. D'ailleurs, quand vous regardez les livres, c'est art des cavernes, art pariétal, etc. On accentue cet aspect-là. Il y a plusieurs auteurs, et par exemple, je cite Mithun, qui proposent que ces peintures allaient au-delà, qu'en fait, il s'agissait des sortes d'encyclopédies des connaissances essentielles. Et là, je dois essayer de vous convaincre simplement. Donc, là, à Lascaux, si vous l'avez visité, il y a des représentations de chevaux et des taureaux. Et autour, il y a des représentations, par exemple, des empreintes. Donc, le cheval, où c'est rond, là où il y a c'est en deux parties, donc leur patte. Il y a parfois des représentations qui sont interprétées par certains comme la nourriture. Il y a d'autres représentations qui pourraient être interprétées comme une représentation de l'habitat, donc où est-ce que l'animal passe la nuit, ou des défécations, parce que comme ça, on peut retrouver l'animal, parce qu'on reconnaît quel animal a passé par là, etc. Et ça peut, il y a même des représentations, ça c'est Altamira, ça c'est une gravure à l'origine, donc je n'ai pas la photo, mais où on a même les représentations de la production des sons de certains de ces animaux. Donc quelque part, on pourrait dire l'homme du haut paléolithique commençait à mettre ensemble ses connaissances qui ont aidé à avoir cette connaissance qui pouvait être transmise par la suite. Alors, avec cela, l'identité humaine, une affaire de neurones. Alors, venant de mon domaine scientifique, je dirais oui, dans le sens que les réseaux neuronaux sont essentiels aux fonctions cognitives qui contribuent d'une façon décisive à notre identité humaine. Par contre, je dirais que l'identité humaine, et là je parle au niveau Homo sapiens, n'est pas qu'une affaire de neurones, parce que en ces capacités cognitives que l'adulte acquiert au cours de sa vie et qui constitue cette identité, s'appuie sur des représentations externes et sur la transmission de ces représentations entre les individus, entre des générations et, on pourrait dire, entre les populations dans certains domaines. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée.